La mort.
La mort.
La mort.
La mort.
Les morts.
La mort.
La mort.
La mort.
Printemps mortel, la mort sur les ondes, du 18 avril au 21 juin. Le printemps mortel est organisé par le Centre social La Paz, la Maison de Quartier des Ors, Radio Royan Vercors, Thanatosphère et les PEP.
On parle de la mort ce mois-ci, d'existence,
du deuil,
d'émotion,
de l'au-delà,
d'amour immense,
de soins palliatifs,
des fins aux défuntes,
en souffrance,
peur de la mort, tristesse,
rituel, sépulture,
à tous les morts,
violentes ou prématurées,
ramener la mort dans l'espace public.
Chaque semaine, une sélection spéciale de Radio Royan Vercors, 93 FM.
Pour accompagner et vivre le deuil.
Parler avec les morts.
Il y a plein de petites morts.
Comme une ombre parmi les vivants.
La seule certitude qu'on a dans la vie.
Finalement, la mort fait partie de la vie.
La mort, on y est tous et toutes confrontés.
Rendre communauté invisible des personnes qui doivent vivre avec.
Des émissions inédites pour parler de choses sérieuses avec légèreté.
On peut aussi parler de la mort sans être glauque, sans être grave, sans être... Il n'y a pas que de la tristesse, en fait.
Cette semaine, dans les rendez-vous mortels, nous vous proposons la rediffusion du plateau mortel « La mort, une matière artistique comme les autres », un plateau animé par Radio Royan Vercors, qui a eu lieu le 27 mai à 18h dans la cour du centre social La Paz, en compagnie de Mbalou de la compagnie La Pigeonnière et Claire de la compagnie Le Cri du Caillou, deux artistes royanaises en cours de création sur des spectacles sur la mort.
Pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs, on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux. Mais chaque année, nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastels. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié. Chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers.
Quoi de mieux que les mots de Grand Corps Malade pour commencer ce plateau mortel. On est dans la cour du centre social La Paz à Saint-Jean-en-Royan. Et d'abord, le centre social que je remercie pour nous mettre à disposition cet espace. Et voilà, c'est une occasion de sortir le studio mobile de Radio Royan. Ça annonce un peu la saison estivale parce qu'on aime bien faire ça, se mettre là où on peut, dans les événements, dans les lieux, avec notre matériel. Avec Jean-Claude, bénévole à la technique, l'homme de l'ombre caché derrière le poteau et le kakémono Radio Royan. Merci Jean-Claude d'être avec nous. Merci public nombreux et nombreuses. Alors, c'est radiophonique, on ne vous voit pas, mais vous êtes au moins 500. Et aussi, merci à mes invités, Claire et Mbalou, qui ont accepté mon invitation quand le printemps mortel s'est mis en place avec la directrice du centre social, Séverine. Je lui ai proposé cette idée d'apéro, apéro radio, et je lui ai dit, quand même, la question de l'artistique, c'est important. Et puis moi, je connais des artistes sur le territoire, elles travaillent sur la mort, dans leur travail de spectacle vivant. Est-ce qu'on ferait ça? Et puis elle m'a laissé un peu carte blanche, et j'ai proposé à Claire Mbalou de se joindre à moi pour cette histoire. Et je vous laisse vous présenter à tour de rôle un peu ce que vous avez envie de dire au public et puis aux auditeurs, auditrices qui écouteront en replay votre parcours artistique, qui vous êtes, peut-être une anecdote de l'arrivée dans le Royaume ou quelque chose que vous avez envie de dire sur vous. Et puis après, petit à petit, on rentrera un peu dans ce plateau qu'on a appelé « La mort, une matière artistique comme une autre ». Point d'interrogation. Je ne sais pas si on aura la réponse à la fin, mais en tout cas, on va continuer à se poser des questions. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Mbalou, allez. Claire. Respire, on respire et on y va.
Non, je peux y aller. Moi, c'est Mbalou. Je suis comédienne, metteur en scène et autrice. Enfin, en tout cas, j'écris mes propres spectacles. Et alors là, je suis un peu là au nom de la compagnie La Pigeonnière, qui est une compagnie que je co-dirige avec une autre artiste qui s'appelle Blanche Tirsio, qui n'est pas là aujourd'hui, et avec qui on est vraiment les deux parties d'un seul cerveau, dans la mesure où on fait toutes les deux tout, donc la mise en scène, l'écriture, le jeu, donc on se met d'accord sur tout. Donc avec cette compagnie La Pigeonnière, on fait des créations in situ, donc c'est des créations qui s'inspirent des lieux dans lesquels elles ont lieu, donc qui sont plutôt hors les murs, généralement à l'extérieur, mais ça peut être aussi dans des lieux non dédiés, des anciennes usines, des friches, etc. Et souvent, c'est des créations qui sont participatives, c'est-à-dire qu'elles impliquent des habitants, habitantes, ou commerçants, commerçantes, ou des ateliers artistiques locaux, et immersives. C'est-à-dire que le public est invité d'une manière ou d'une autre à rentrer dans la fiction, soit en ayant un rôle à y jouer, soit en ayant une immersion sonore. Enfin voilà, on a plein de projets qu'on met en œuvre différentes choses de ces dimensions in situ et immersives. Et là, avec cette compagnie, on est en travail sur un spectacle qui s'appelle Apparition, qui traite de notre relation avec les défunts. Donc, c'est pour ça que je suis là, je pense. Mais par ailleurs, je suis plus connue, entre énormes guillemets, dans le Royaume pour un travail avec une autre compagnie qui s'appelle la Compagnie En Cavale, avec laquelle je suis arrivée dans le Royaume en roulotte, à cheval. Donc c'est vraiment un tout autre type de travail. Et pour l'instant, La Pigeonnière n'a jamais mis les pieds dans le Royaume, mais j'espère qu'on aura l'occasion de venir... Devenir aussi. Voilà.
Merci. Et Claire, et toi, qui es-tu?
Alors, moi, je suis Claire Villard. Je suis comédienne clown et, depuis, je ne sais plus exactement depuis combien de temps, depuis peut-être 8 ans. Et je suis régisseuse lumière pour plusieurs compagnies depuis maintenant, ça va faire 18 ans, je crois. Et voilà. Et jusqu'à maintenant, je n'avais jamais monté de projet qui soit monté par moi-même, quoi. Et ça fait un moment que j'avais envie. Et à un moment donné, j'ai été attirée par cette thématique autour de la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer une compagnie qui s'appelle Le Cri du Caillou. Et petit à petit, il y a plein de gens qui se sont ajoutés dans la compagnie. Il y a Charlotte Mignot, Aro Choran qui est là. Qui est-ce qu'on a d'autres? On a Marie Jagoda. On a aussi Sylvia Dotti et Marine Pontu en coprésidente. Et donc, du coup, l'idée, c'est de monter deux projets autour de la mort, une kermesse mortelle avec d'autres personnes encore. On est 7 sur ce projet. Et donc là, je suis sur un projet d'écriture d'un spectacle en déambulation en extérieur qui, pour l'instant, le titre provisoire s'appelle « Le bruissement du dehors » et qui sera donc avec moi en comédienne et une musicienne, Chloé Serme-Morin, qui sortirait en 2028. Donc pas tout de suite, mais je suis déjà sur l'écriture du spectacle.
Et c'est vrai que la mort, alors dans le cadre du printemps mortel, on traite cette question de la mort. Mais quand on dit la mort, ça peut être le deuil, ça peut être qu'est-ce qu'on fait avec nos morts et nos mortes, comment nous, en tant que vivants et vivantes, on vit ça. Et que ça peut faire un peu peur selon... même là, en envoyant par exemple l'invitation pour le plateau, je sens qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi, pas du tout. Merci, mais non merci. » Donc on sent que cette question, c'est aussi... Là, dans le printemps mortel, c'est aussi une manière de la mettre dans l'espace public, de réfléchir avec tout ça, de s'en saisir aussi, pour ne pas être démunie dans certains moments. Et le spectacle vivant, c'est aussi ça que ça propose. Et du coup, moi, une des premières questions que je voulais vous poser, c'était pourquoi créer un spectacle sur la mort ? Comment vous est venue cette idée-là ? Parce que, comme vous venez de le dire, vous avez d'autres expériences artistiques avec d'autres thématiques, autant sur le bruissement du dehors que sur apparition. Quel était l'élan premier, la genèse de cette création-là ?
Moi j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Il est mort tranquillement, il avait 88 ans, donc il est mort tranquillement à un âge bien avancé en ayant déjà fait beaucoup de choses dans sa vie. Et évidemment j'ai été triste, mais je m'attendais vraiment à être effondrée et j'ai réalisé que pas tant que ça, enfin que ça me nourrissait sur plein d'autres plans, sur plein d'autres choses. Et j'ai commencé à en parler autour de moi à plein de gens, en discutant de ça, de la mort, du deuil. Et ça a ouvert des discussions incroyables avec beaucoup de monde, avec des gens avec qui je n'étais pas forcément toujours très proche, mais en discutant de la mort et du deuil, on arrive à l'essence même de la vie, de ce que ça raconte, de qui on est et tout ça. Et j'ai réalisé à quel point c'était primordial d'en parler, et qu'on en parlait très très peu et qu'il y avait vraiment besoin d'en parler. Et voilà. Et du coup, j'ai eu envie de m'en emparer d'une manière plus artistique et d'essayer de réfléchir à comment monter un spectacle autour du deuil. Et une question qui m'a particulièrement interpellée, c'était de me dire comment font les gens qui perdent un proche trop tôt ? Enfin, justement, pas quelqu'un qui est en fin de vie après avoir mené une belle vie, mais quelqu'un qui meurt trop tôt par rapport à ce qu'on aurait voulu, on va dire. Et comment les gens peuvent arriver à continuer à vivre et rebondir après ça. Voilà.
C'était ça l'impulsion de départ pour toi. Ouais. Mmh. Okay. Et toi, Mbalou ?
Nous, en fait, c'est pas tellement... On n'a pas eu cette idée au préalable. C'est plutôt une idée qui est venue... une nécessité qui est venue... en étant en création, on avait reçu une commande donc en 2018 d'un festival de création en espace public qui nous commandait un parcours théâtral dans l'espace public, vu que c'est ça qu'on fait. Et on était comme ça un peu en train de brainstormer avec Blanche sur, on aimerait bien embarquer les gens, leur faire croire à une fausse piste, mais qu'en fait ce serait autre chose, mais en fait on ne sait pas quoi. Et alors il y a eu un peu un espèce de petit miracle comme ça, de cohésion où on a dit en même temps toutes les deux et en fait on irait au cimetière et en fait c'était évidemment pas du tout anodin. Moi je venais de perdre je pense 2 semaines avant la mère d'un ami qui avait beaucoup compté pour moi et qui était aussi la personne qui m'avait mis au théâtre, donc je pense que sans m'en rendre compte ça me trottait. Blanche avait perdu sa meilleure amie qui s'était suicidée 2 ans auparavant, et donc je pense qu'on a eu un peu ce truc où ça nous est venu aussi d'un coup, je pense, très inconsciemment, mais un peu ce truc de c'est des choses dont on ne peut pas tellement parler, où on n'a pas l'impression de tellement pouvoir en parler autour de nous, et donc là on a un peu carte blanche, on peut un peu emmener du public là où on veut, et on va les amener au cimetière parce que c'est quelque part où on ne va pas sinon et où on n'ose pas dire aux copains, aux copaines, venez dimanche, on va au cimetière sur la tombe de Mathilde ou quoi au caisse. Et donc je sais pas, ça c'est une interprétation que je fais a posteriori, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué. Et du coup, on a créé cette forme qui était du coup un one-shot. On a travaillé 2 semaines. Et là, il s'est passé deux choses. Il y a eu une chose qui est que finalement, l'accès au cimetière, qui était donc un peu le point d'arrivée très importante, cette forme, nous a été refusée 2 jours avant. Donc on avait l'autorisation, on attendait juste d'avoir les clés du cimetière, et finalement 2 jours avant, le bourgmestre, donc c'était en Belgique, donc c'est l'équivalent du maire, a décidé de nous retirer l'autorisation parce qu'il y a un tabou énorme sur faire de la vie dans un espace mortuaire, quoi, dans un cimetière. Donc finalement, on a fini le spectacle aux portes du cimetière et ça nous a questionné sur cette chose-là, sur en fait quel mur on construit entre le monde des vivants et le monde des morts. Et l'autre chose qui nous a qui nous a flashé, c'est un peu ce que disait Claire, c'est que ça, en fait, ça a suscité plein de réactions et de discussions hyper intéressantes avec les gens qui ont vu ce spectacle. Je pense au-delà de ce que nous on imaginait, en fait, ça s'est vraiment venu ouvrir un pan de partage qu'on a en fait continué après tout du long. Donc ça, c'était en 2018, et là, depuis, on passe notre temps à parler de ça, à rechercher sur ça. Blanche, par ailleurs, a plusieurs projets autour du rituel funéraire, et donc ça a continué à nous occuper. On s'est toujours dit, on aimerait bien continuer ce projet, faire un spectacle. Sauf qu'à l'époque, on a essayé et ça n'a pas du tout marché. Je pense pour deux raisons. Il y avait qu'on était une compagnie plus jeune, et donc comme c'est un sujet qui est compliqué, les gens n'avaient pas forcément confiance en nous sur le fait de le traiter. Mais aussi, c'était avant le Covid. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'après le Covid, ça a été beaucoup plus simple de proposer à des partenaires de dire on voudrait faire un spectacle sur le deuil. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens intéressés. Donc, c'est ça qui nous a relancé là, maintenant, pour cette nouvelle création qui sortira en 2026.
Et chacune, quand vous dites que vous travaillez sur la mort dans vos créations actuelles, pas celle passée, mais actuelle, c'est quoi un peu les réactions des personnes, justement? Alors, on est post-Covid, effectivement, c'était il y a 5 ans. Comment réagissent les gens?
Ça dépend vraiment. Il y a un peu les deux extrêmes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des gens qui sont super enthousiastes parce que justement, il y a un truc de, en fait, on n'en parle jamais. Et du coup, je pense pour des personnes notamment qui sont en train de vivre des deuils, le fait de se savoir qu'il y a des gens qui prennent ce sujet-là et qui veulent en parler, ça suscite de l'enthousiasme. Et puis après, c'est vrai qu'à l'inverse, il y a aussi la crainte du trauma, du fait qu'en parler, ça ravive des choses. Moi, j'ai eu ça. Là, je donnais un atelier à des ados il y a 2 semaines. Et en fait, il y en a une qui n'est pas venue parce qu'elle avait peur que ça soit trop, parce que c'était l'anniversaire de la mort de son père. Et en fait, ce qui est tout à fait entendable, mais... Et du coup, il y a eu un peu ces réactions des ados après qui ont dit « Ah, mais en fait, ce serait chouette qu'elle aurait pu venir. En fait, c'était rigolo. » Enfin, donc voilà, il y a un peu les réactions de peur, de... Je préfère me mettre à distance. Et du point de vue plutôt professionnel, en tout cas dans le secteur culturel, je sens qu'il y a un peu une réaction de « Ok, mais est-ce que ça va être hyper glauque ou pas ?» Et donc, moi, je sens qu'on a on est un peu obligé de tout le temps dire « Non, non, mais ça va aller. » Ça, c'est pas juste être horrible. En fait, c'est un sujet qui est intéressant par ailleurs, qui parle aux gens par ailleurs, même qui n'est pas juste traumatisant.
Il faut rassurer à la fois les programmateurs, programmatrices de salles et le public.
Et le public,
en disant
ouais.
Ça ne va pas être glauque. Mais comme sur le Printemps mortel, finalement, de dire on travaille sur la mort, mais ça va aller.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Claire ?
Ouais, il y a souvent des réactions un peu de « Ah, ok, bon, trop bizarre. » Enfin, ouais, un peu, c'est bizarre. Enfin, je sens que c'est un truc, c'est bizarre de vouloir parler de la mort et... c'est pas réjouissant, quoi, donc ça emballe pas toujours. Après, des fois, justement, ça ouvre des discussions et ça offre des moments de parole et d'échanges qui sont super intéressants. Et auprès des professionnels, je dirais que plutôt qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui parlent de la mort, qui ont des spectacles autour de ça. Et du coup, auprès des professionnels, à chaque fois, je me heurte à « Ah, comme tout le monde en ce moment, tu parles de la mort ». Et alors que moi, c'est un sujet qui me travaille énormément et que j'ai envie de pousser à fond. Et du coup, je me dis en même temps, pour moi, ça me paraît être le moment, donc j'y vais. Mais voilà, c'est aussi un moment où tout le monde parle de ça, quoi.
Mais toi, ça te freine ou tu te dis, ça te met des bâtons dans les roues, ce type de réaction, genre ah oui, d'accord, tu fais comme tout le monde, c'est la mode, quoi.
Bah oui, je me dis mince, parce qu'après, évidemment, on a des spectacles, on a envie qu'ils soient diffusés, qu'ils soient vus, et du coup, s'il y a déjà 150 spectacles qui parlent de la mort, ça rend d'autant plus difficile à diffuser un spectacle. Et donc, disons que stratégiquement, c'est peut-être pas une très bonne stratégie, mais je me dis qu'il faut... Enfin, en tout cas, moi, qu'on fonctionne comme ça, c'est qu'il faut que je fonctionne avec mes tripes, et c'est ce que j'ai en ce moment dans les tripes.
Et pour continuer, je me demandais, est-ce que vous, donc là, vous n'êtes pas toutes les deux au même stade de création, Balou, toi, t'es plus avancée, combien de temps ça fait que t'es dessus?
Du coup, ça fait depuis 2018, entre gros guillemets, mais en tout cas, là, on a repris la création en décembre 24, donc il y a 6 mois, un peu moins. Et on a 10 semaines de résidence et on en a fait 4. Donc voilà, on est
Bien dedans, quoi.
Ouais. Donc, à la fin du gros premier tiers, quoi.
Et toi, Claire, c'est ce que tu disais, c'est prévu pour 2028.
Ouais, donc c'est prévu pour 2028. Là, ça fait un an. Alors, faut savoir que nous, on a fait pas mal avec notamment Charlotte Mignot, qui est là derrière, qui se cache.
Ici présente.
On a fait pas mal d'entretiens audio avec différentes personnes, des entretiens de 1h30, 2h. Et du coup, on a commencé ça l'année dernière. Bon, j'ai aussi beaucoup lu, beaucoup écouté de choses et tout ça. Là, cette année, je suis dans la phase d'écriture du spectacle, ce qui n'est pas une mince affaire. et pour ça, d'ailleurs, je me fais accompagner par Charlotte Meurice, qui est auteur et metteur en scène de la compagnie, entre autres, la compagnie Tout en Vrac, et du coup, qui m'épaule là, sur l'écriture. Et du coup, l'année prochaine, on va faire 3 résidences avec la musicienne pour travailler l'écriture et la musique, parce que les deux vont être énormément mêlés. Et là, il va y avoir un gros travail de sonore autour d'une bande-son et tout ça. Donc, ça va être très imbriqué. C'est pour ça qu'on fait 3 semaines là-dessus. Et ensuite, il y aura 2027 et 2028 où à chaque fois il y aura 4 semaines de résidence pour travailler aussi le travail dans l'espace public en déambulation qui demande un travail particulier et notamment un travail important avec le public. On joue vraiment avec le déplacement des gens et tout ça. Et du coup, voilà. Et puis comme c'est mon premier spectacle et que le sujet n'est pas simple, j'ai besoin de temps dessus pour travailler.
Et du coup, je voulais vous demander à toutes les deux qu'est-ce que le fait de travailler sur cette matière-là implique dans votre rapport intime, dans vos histoires personnelles, puisque la mort, c'est avant tout une histoire d'intimité, de singularité, même si c'est une matière qui est universelle, une thématique universelle. Comment ça implique vos rapports intimes avec ça? Comment vous arrivez à vous préparer à ce travail-là, quoi, puisque j'imagine que plonger dedans, voilà, lire, regarder, enfin, écouter des podcasts, regarder des séries, bon, voilà, ça fait que la matière elle est quand même présente pas mal. Comment ça marche avec vos histoires personnelles et vos rapports, comment votre rapport à la mort évolue en fait?
C'est sûr que c'est un gros enjeu de ce travail, de voir, de faire la part des choses entre le travail professionnel, le travail intime, parce que c'est aussi un travail, le rapport au deuil. Moi, je pense que dès le début, il y a eu quelque chose d'assez fort qui est que, donc, comme je disais, la première impulse, c'était venu pour moi, en tout cas intimement, de la mort d'une personne, de la mère d'un ami. Et donc, j'avais un peu en tête aussi que je créais pour cet ami-là, pour lui dire, en fait, on peut dire des choses sur la mort qui ne soient pas que horribles. Et en fait, cet ami-là s'est suicidé dans l'année qui a suivi. Et donc, tout de suite, je me suis dit, en fait, OK, alors est-ce que je continue dans cette boucle de je crée pour consoler les gens en fait, qui vont mourir? Enfin, il y a quelque chose d'assez vertigineux en dehors du traumatisme et du deuil, mais dans aussi savoir qu'est-ce que moi, ça me faisait et quel était mon moteur. Et donc, je pense que pendant tout un temps, j'ai été très distanciée par rapport à ça. Je me suis vraiment plongée dans cette matière un peu comme plutôt d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire de me dire vraiment ça m'intéresse de savoir comment est-ce que les gens mettent en rituel les décès, etc., en distanciant totalement la partie émotionnelle. Et en fait, moi, ça m'a rattrapé à un endroit qui est qu'en fait mon père est décédé à la fin de ma première semaine de résidence là de décembre. Et en fait, au cours de cette semaine, je pense que ça a été vraiment ce décès, il était prévisible, même si on pensait pas qu'il allait arriver comme ça ou à ce moment-là. Mais moi, pendant cette semaine-là, je me suis vraiment rendu compte de la difficulté que c'était pour moi, vraiment intimement, d'être au travail, en fait, tout ce que ça me faisait jouer aussi, d'entendre des récits de pertes, alors que j'étais même moi-même en train de me préparer à une perte. Et en même temps, d'un point de vue très positif, ça m'a permis pendant cette semaine de travail-là d'avoir des espaces pour en parler, parce que justement, j'étais en plein dans cette matière-là, et donc notamment on organisait un café mortel, et c'est la première fois que j'ai dit, mais en fait, mon père va mourir. Je ne savais pas que ça allait arriver 4 jours après, mais en fait, je ne l'avais jamais dit avant. Et donc, il y a un espèce de truc un peu ambivalent entre la... Enfin, un peu comme ce qu'on disait par rapport aux gens de l'extérieur, c'est que des fois, j'ai l'impression que moi, j'ai à la fois peur... mais en fait, si je me connecte émotionnellement à ça, ça va être trop dur. Et à la fois, j'ai une reconnaissance de, en fait, le fait de travailler sur ça, ça me donne vraiment des espaces pour cet aspect-là de ma vie et ces émotions-là. Et voilà. Et alors après, ce que j'ai quand même fait avant de démarrer la création, le dur de la création, c'est que j'ai contacté une nouvelle psy qui travaille sur les questions de deuil en me disant qu'il y avait, en fait, c'était aussi un espace où il fallait être accompagné parce que dans